Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Le témoin de ce vendredi, René-Victor Pille et la guerre d'Algérie.
Derrière les réceptions officielles, derrière l'implantation des bureaux du FLN ouverts aux journalistes mondiaux, se dissimule une crise grave. Des 9 chefs historiques du 1er novembre 1954, seul Krim Belkacem est sain et sauf. Plus grave encore, au sein du CCE, Aban Ramdan, le politique, reproche aux colonels du FLN leur féodalité. Gênant, il va être assassiné par ses amis d'hier.
Aban Ramdan, c'était un combattant important de la révolution algérienne, l'un des artisans de la fameuse réunion de la Soumam, de la bataille d'Alger. Ensuite, au début de 1957, il se dit aujourd'hui qu'il incarnait la primauté du politique sur le militaire et du politique sur le religieux. En 1957, ses compagnons qui vont faire le choix d'une autre ligne l'étranglent. René-Victor Pille était sous-lieutenant en Algérie à la même époque, de l'été 55 à l'été 57. Il aurait pu rencontrer Aban Ramdan. Il en fait une figure centrale de son nouveau roman « La nuit de Zelemta ». Ce n'est pas la première fois que Pille écrit sur l'Algérie. Son ami Xavier Gral observait qu'on rentrait de là-bas avec une image transformée de la France. Quand il publiait « Le Fakir », son premier roman sur le sujet, c'était encore l'autre siècle, l'autre millénaire même. On attendait alors de René-Victor Pille qu'il garde le ton du grand livre qu'il avait fait connaître dans le monde entier, « L'imprécateur ». Le voilà qui revient maintenant pour la première fois dans le roman du 21e siècle et c'est soudain une retenue mélancolique qui l'habite. Le temps de la colère est passé.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
René-Victor Pille, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que les journalistes vous redoutaient pour vos invectives, vos colères au temps de l'imprécateur et dans les années qui ont suivi.
Je me suis calmé.
Ouais. Vous étiez un témoin, alors je disais que vous aviez participé au monde publicitaire, vous avez été un cadre très très supérieur. L'imprécateur racontait comment une façade se lézardait, comment des piliers commençaient même à se fissurer. Quand je dis témoin, c'est que vous êtes un peu comme, vous savez, les morceaux de plâtre blanc qu'on met dans les fissures.
Oui, mais là c'était moi, je m'y suis mis tout seul.
Ouais. vous avez toujours été cadre et vous avez commencé à encadrer des hommes à l'époque de la guerre d'Algérie. Enfin, il vous est arrivé quand même d'être sous-fifre.
Ah mais bien sûr, j'ai été sous-fifre au début de ma carrière professionnelle, quand je suis entré à Air France, puisque je n'avais pas de diplôme. Et donc j'ai été un employé tout à fait modeste, où j'enregistrais les bagages. Et puis ensuite, j'ai réussi à intégrer le service de publicité d'Air France. Je suis devenu demi-cadre. Et puis ensuite, je suis allé dans une agence de publicité américaine, où je suis devenu cadre.
Mais quand même, vous aimez bien être cadre, parce que vous n'avez pas fait d'études supérieures classiques.
Non.
Et vous avez été volontaire pour devenir sous-lieutenant en Algérie.
J'ai été volontaire me disant que il valait mieux que je sois officier plutôt que simple soldat, surtout dans des circonstances comme ça, et bien m'en a pris, parce qu'en fait, être officier, même simple sous-lieutenant, ça change la vie. Hein. Vous ne vivez pas de la même manière, même en opération. Vous avez votre ordonnance, vous avez des bonnes rations, vous avez une bonne tente quand il pleut, qui vous faites dresser par votre...
Votre ordonnance.
Bon, à part ça, vous partagez la vie des gens. Mais ça donne des avantages. Je me suis dit, plutôt que d'être commandé par des sergents, je préfère autant les commander moi-même, comme ça j'aurai la paix.
Avant la nuit de Zelemta, dont nous allons parler, Albin Michel, éditeur, votre premier livre sur la guerre d'Algérie mettait en scène un sous-lieutenant, c'était le Fakir. Le sous-lieutenant était devenu un monsieur très important, commandeur de la Légion d'honneur. C'était un livre, comme on les aimait chez vous, touffu.
Oui. Et alors, il était touffu, mais c'est une époque où je n'ai pas osé affronter la réalité que j'affronte dans la nuit de Zelemta. Mon héros, me ressemblait un tout petit peu. Il avait vieilli, il était plein d'honneur et d'argent. Enfin, moi, j'avais pas d'argent, mais bon, hein, j'avais connu les feux de la rampe et tout. Et puis, le passé revenait en masse.
Mais souvenez-vous, il revenait sous la forme d'une jeune fille plantoureuse, voilà, qui était le fruit de ses amours avec une tenancière de, oui, bordel, ouais, à Kléber-Dussal.
Oui, c'est ça.
Un mais bordel à Kléber-Dussal.
Oui, du moins le prétendait-elle. Ouais. Alors c'est vrai qu'il la voit arriver dans son vaste bureau des Champs-Élysées un jour, et qu'elle lui dit ça. Donc, mais en commençant un roman comme ça, je commençais une autre histoire. C'était pas La Nuit de Zelenta. On était loin d'Abd al-Hamdan. Hein.
Alors, il y avait... Vous voulez dire que vous vouliez déjà raconter ce que vous racontez dans La Nuit de Zelenta, mais que vous aviez mis beaucoup de filtres.
Oui, absolument, parce que c'est une histoire, La Nuit de Zelenta, qui m'obsède depuis que je suis revenu d'Algérie. Hein. C'est le fait d'avoir mon héros et rencontrer Abd al-Hamdan dans la prison d'Albi en 1953, quand il était au lycée Toulouse, puis que il le revoit plus tard dans une opération quelques années plus tard.
Attendez, là je vous interromps parce qu'il y a votre fille qui dit « Papa ne raconte pas l'histoire ».
Ah,
elle est là, tel un archange qui est venu vous soutenir, oui, aujourd'hui. Alors on va prendre dans l'ordre et on ne va pas tout dévoiler, si vous le voulez bien, René Victor Pi. Alors c'est un livre quand même s'il est beaucoup plus dépouillé que Le Fakir ou que d'autres de votre facture, avec beaucoup d'échafaudages, des constructions complexes. On va prendre seulement les deux personnages principaux. Un jeune homme qui s'appelle Lethier, dont l'histoire est racontée par un vieux curé. On va laisser tomber le vieux curé, ce sera pour les lecteurs de La Nuit de Zelenta une découverte. Alors, ce jeune homme, il vient d'une famille de pieds noirs, comme vous en avez connu pendant votre expérience, oui, d'Alger. Une famille optimiste, de bonne humeur, plutôt généreuse d'ailleurs, oui, insouciante aussi.
Oui, très insouciante. Et ce qui s'est passé, c'est que mon héros, à la suite donc de certaines circonstances, prend conscience de l'aveuglement de sa propre famille et des autres.
On peut raconter les circonstances.
Les circonstances, c'est que
parce qu'il y a un peu une histoire d'amour. Je sais que l'amour, c'est encombrant
alors,
maintenant pour
je
vous, mais enfin,
je n'osais plus. Mais alors, bon, comme je suis sous surveillance, je vais dire un peu. C'est que, comme il était excellent élève à Intimouchent, dans l'Oranais, ses parents l'ont envoyé poursuivre ses études dans un grand lycée français à Toulouse, au lycée Pierre de Fermat. Et là, en sortie générale, il accompagnait son meilleur ami qui avait une sœur tout à fait plantureuse, une belle albigeoise, comme il y en a toujours, à Toulouse et Albi. Hein. Et donc, pour complaire à la maman de celle-ci, qui s'intéressait aux bonnes œuvres, il l'accompagnait à la prison. Pour faire du bien aux prisonniers.
Vous voulez dire que dans la générosité, il y a du calcul?
Ah, là, il était pleinement en calcul. Il se disait qu'il allait se faire bien voir. Mais en arrivant, il est tombé, si j'ose dire, sur un os, puisque parmi ces prisonniers, il y avait un certain Abd al-Hamdan dont il n'avait jamais entendu parler. Pourtant, il était né là-bas, en Algérie et tout ça. Bon. Hein, et qui était prisonnier politique, qui écumait les prisons françaises depuis longtemps, et avec qui il a eu des entretiens qui l'ont bouleversé.
C'est un tempérament, Abd al-Hamdan disait de lui, le regretté Aït Ahmed. Voici, je vous interromps un instant, comment une télé satellitaire basée au Royaume-Uni, qui s'appelle Al-Magharibia, et qui essaie de donner une autre version que l'histoire officielle de l'Algérie, présente récemment Abd al-Hamdan. Vous ne corrigerez pas tout de suite ce qui est dit, mais on va bien sentir la vigueur du bonhomme.
Abd al-Hamdan était le plus connu de ce qu'on appelle les novembristes. Pourquoi ? Pour la simple raison que les novembristes étaient tous d'anciens membres de l'OS qui travaillaient dans la clandestinité. L'un des rares militants de l'OS qui a été emprisonné à avoir fait parler de lui, c'était Abin par une grève de la faim la plus longue connue dans les prisons françaises pour l'époque. C'est comme ça que l'Algérie libre de l'époque avait fait un article très élogieux et il a été félicité même par la direction politique de l'époque Maintenant, puisqu'on invoque souvent Mohamed Harbi a dit publiquement qu'Aben était donc dans le comité des 12 chargés de prendre en charge la résistance algérienne. Une preuve intangible, c'est que la Ronéo qui a imprimé la proclamation du 1er novembre est sortie de chez nous. C'est mon frère Dahman qui l'a emmenée à Dodane jusqu'à Wadaïchi pour qu'elle soit reprise en main par les gens d'Iri Limoula. Donc ça, c'est Ramdan qui a donné de sa prison. Il était à l'époque à la prison de l'Haraj. Il a donné des instructions à son neveu pour remettre la Ronéo aux gens d'Iri Limoula qui ont donc imprimé la plateforme du 1er novembre.
C'est un autre neveu de Aban Ramdan auquel vous enverrez la nuit de Zélanta qui parle. Alors, on devine la vigueur donc du personnage et le tiers. Votre narrateur, enfin votre héros, c'est pas le narrateur, votre héros, il sent une intelligence et un projet qui bouleverse, dites-vous, sa vision de l'Algérie,
il a le pied noir. Il a 18 ans, mon héros. Il a 18 ans, le pauvre. Il débarque dans cette prison d'Albi et il tombe sur un bonhomme dont il n'avait jamais entendu parler et qui le fascine et qui, au cours de 3 entretiens, lui explique que son Algérie, à lui, ce jeune homme, bientôt n'existera plus. Que par contre, bien sûr, il aura le tiers sa place dans l'Algérie nouvelle, mais ce sera une Algérie nouvelle. Et il émane une telle force, une telle certitude, un tel magnétisme de ce personnage inattendu pour le tiers, qu'il n'avait jamais entendu parler, que vraiment, il en est sorti bouleversé et...
C'est le syndrome, dites-vous, de Ramdan qui le frappe.
Absolument. Il est bouleversé et retourné, en quelque sorte. Ce qui fait qu'à sa première permission pendant les vacances à Inti Mouchent, eh bien, il n'ose pas encore en parler à sa famille, mais il regarde sa ville où il est né d'un autre œil, ses amis d'enfance d'un autre œil, se disant, mais... Est-ce que c'est des gens qui travaillent pour Aban, pour ce monsieur Aban?
Ce sont ses amis musulmans. Ouais. Mais les amis pieds noirs, vous pouvez nous décrire l'Oranie? On est en 53, 54, oui. Là. L'Oranie, telle que vous l'avez connue peu après, ouais. Où il n'y a pas d'ailleurs que des pieds noirs français.
Non, il y a comme on dit aujourd'hui, un melting pot formidable. Il y a des Maltais, il y a des Alsaciens.
Des Alsaciens venus après 71.
Des Alsaciens, beaucoup d'Espagnols, et donc des Français, bien sûr.
Vous vous souvenez des mots qu'on utilisait? Est-ce qu'on utilisait encore, quand vous étiez en Oranie, le mot « élément européen » ?
Oui, absolument. On disait des éléments. Mais enfin, eux ne se considéraient pas comme des éléments européens. C'est les autorités qui les appelaient comme ça. Mais eux, ils étaient très heureux. Ils étaient très festifs. Et il y avait aussi, à l'intérieur de cette communauté pieds-noirs, il y avait des classes, des strates. Il y avait les pauvres, les petits, les moyens, les grands, les coiffeurs, les grands propriétaires terriens, les capitalistes, tout ça. Oui, et il y avait une vie politique, il y avait un fort parti communiste, il y avait un fort parti socialiste. Les rues sont des... Il y avait des rues Robespierre, Carnot et Saint-Just. Il y avait donc des c'est extraordinaire, parce que la France des pieds noirs qu'on trouvait en Algérie était une France quasi presque révolutionnaire, qui rendait hommage à ces gens-là, et à ce qu'on n'a pas su plus tard. Et
c'est au fond un des buts de votre livre, hein. C'est de regarder avec considération les pieds noirs.
Et oui, parce que je me sers, j'ose dire, de ce héros, puisque je suis romancier, qui est mon héros, je m'en sers aussi, pour m'introduire dans cette communauté et montrer à quel point elle était inconsciente et aveuglée, alors que lui, le jeune Lethier, commençait à ouvrir, à soulever des paupières.
Dans la famille Lethier, il y a une branche bretonne.
Oui.
Ça, c'est le côté Xavier Graal, auquel vous rendez hommage souvent, oui. Grand écrivain breton. Puis il y a une branche espagnole.
Ah, puis la branche espagnole, puisqu'ils viennent d'Espagne et qu'ils ont beaucoup travaillé, comme beaucoup de pieds noirs et ceux qui ont fait de la maçonnerie, qui ont construit des maisons et qui, vraiment, ont gagné leur vie durement et ont fini par réussir.
Et vous parlez des agapes et du caractère festif de cette population. Et vous citez longuement une chanson.
Oui.
Vous en souvenez?
Oui, oh oui, je la connais par cœur.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dit? Et comment ça se dit en espagnol?
Dos cruces. les deux croix, están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Et c'était ce que chantaient les Rouennais.
Que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor bajo la luna callada y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que ha muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que ha muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, barrio de Santa Cruz.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Je suis toujours ému là quand j'entends ça.
C'est Luis Mariano, mais vous auriez pu le chanter vous-même, René Vitorpi.
J'aurais pu le chanter moins bien que lui, mais je connais par cœur, évidemment, la chanson.
Nous sommes à la charnière de 53 et de 54. Toussaint 54, la grande opération concertée du FLN, avec des assassinats et des égorgements spectaculaires. Il y aura ensuite Philippeville. Août 55, avec des attentats et des égorgements spectaculaires qui sont destinés à déclencher une répression disproportionnée. Le premier héros, c'est Lantier. Il va s'engager. Il va dire c'est intolérable. On le retrouvera dans un instant. Qu'est devenu Aban Ramdam? Il n'est pas vraiment dans l'opération de la Toussaint 1954, où il est celui qui joue avec ses fils de sa prison.
Il est en prison et il travaille tellement, il en a profité pour se cultiver, pour former ses réseaux depuis la prison. Et voilà, bon. Mais comme on le dit communément, les autres ne l'ont pas attendu. C'est-à-dire Ben Bella, Ahmed et tous les autres, Kider, Krim Belkacem. Bon. Et ils ont déclenché la révolution, le 1er novembre 1954, alors qu'il était en prison. Mais, contrairement à ce que beaucoup croient, cette révolution, ce déclenchement n'a pas été un franc succès. Alors, bien sûr, ils ont coupé des câbles électriques, ils ont assassiné quelques personnes et tout, mais bon, ils ont loupé leur coup souvent, les caches d'armes ont été découvertes, donc ça n'a pas été un grand succès. Mais Aban a ensuite été libéré. Parce qu'il errait de prison en prison en prison, et comme c'était un prisonnier difficile, on a fini par le libérer, et il a quitté la prison d'Albi, et dès son arrivée en Algérie, il a repris sa vie clandestine, et comme il avait beaucoup travaillé, beaucoup communiqué, comme on dit, avec les autres, hein, il s'est intégré, n'est-ce pas, avec eux, il est arrivé là, et les gens comme Bembella, Kider, Ait Ahmed, tout le monde, Krim Belkacem, Boussouf, tous les chefs algériens, eh ben, ils ont bien été obligés de l'accepter. Et comme il avait une personnalité bien supérieure à celle des autres, il les a dominés.
Est-ce que vous pouvez dire l'importance, selon vous, du congrès de la Soumam, dont il est l'organisateur à l'automne 1956, dont on dit, à tort ou à raison, qu'il représentait une option plus politique encore que militaire, plus laïque que djihadiste?
Non, il est capital, ce congrès. C'est lui qui a créé l'Algérie nouvelle, même malgré la mort d'Aban deux ans après. C'est que ce congrès de la Soumam a permis à Aban d'instaurer son autorité et il a imposé la suprématie, comme on dit, du politique sur le militaire et sur les oulémas, sur les religieux. Ce qui n'était pas rien, parce que dans les maquis, les chefs de maquis étaient fort puissants. C'était des barons. Il y avait Belkacem, il y avait Boussouf, il y en avait beaucoup d'autres. et il aura imposé le politique, c'est-à-dire que c'est, il disait que pour, il y avait eu beaucoup de révoltes en Algérie, mais cette fois, n'est-ce pas, si on voulait pas que ça tourne en autre boudin, et que ce soit une révolte de plus, il fallait que la révolte soit d'abord politique, quel qu'en soit le prix, que c'est ça, ça, pèse, ça va peser lourd, et que le conflit s'internationalise, et que malgré les victoires de quelques katibas sur les surpuissantes armées françaises, qui finiraient par se débrouiller, on ne pourrait gagner ça que sur
le plan politique international.
Et il a eu raison, parce que c'est comme ça que se sont créés les fondements de la révolution. Et c'est pour ça aussi qu'ils l'ont assassiné.
Attendez, votre fille, derrière vous, votre archange.
Ah oui, d'accord.
On ne parle
oui.
pas tout de suite, pas si vous voulez bien. Oui. Parce que toute cette histoire intérieure du FLN est très bien racontée, par exemple, dans un livre de Gilbert Meynier, qu'on peut recommander. Mais revenons à votre roman, René-Victor Pigalle. Alors, il y a l'autre personnage, Lethier, qui, pied noir, a vu qu'il y avait un choix à faire. Il s'est engagé. Il est devenu sous-lieutenant. Il était, comme vous, et comme ce héros d'un film de Florent Siri qui s'appelle « L'ennemi intime ».
Pour une première affectation, vous arrivez dans des circonstances bien difficiles. Vous allez remplacer un mort. Vous êtes dans le coin le plus isolé du périmètre. Une katiba d'une centaine de fels nous donne du fil à retordre dans votre secteur. Il y a un ancien sergent de l'armée de l'âtre qui l'a commandé. Il s'appelle Sliman. Il se cache ici, quelque part, dans ce massif montagneux. J'attends de vous que vous traquiez Sliman et que vous localisiez son unité afin qu'on la détruise.
Et comment le lieutenant s'est-il fait surprendre?
C'était son jour. C'est tout. Le sergent Douniac va vous accompagner jusqu'à vos quartiers. Je retourne au PC. Demain, vous crapahutez sur Taïda. L'officier de renseignement nous a signalé le passage de Fel la nuit dernière.
À vos armes, mon commandant.
Fouillez-moi tout le périmètre! Chaque buisson, chaque putain de rocher! Le front! À midi avec quatre hommes! Allez, monte!
À vos ordres, sergent!
Pas de problème.
La croix, tu grimpes là-haut avec ton serveur, tu le sur ma batterie. Allez!
Bois la crête! Allez!
Ça, c'est le film L'ennemi intime. Et puis, dans le livre La nuit de Zelanta de René-Victor Pigalle, il y a à peu près une scène comparable. L'armée française pousse une porte. On ne bouge pas. C'est l'armée française. Et là, il y a quatre types assis par terre à la lueur d'une lampe à pétrole. Et Lethier, qui commande la patrouille, reconnaît parmi les quatre types Aban Ramdam, qui vient de fuir la bataille d'Alger et qui erre la nuit, marchant à pied pour essayer de rejoindre le Maroc. Là, on ne raconte pas la fin. Hein.
Non.
Vous êtes bien d'accord.
C'est comme vous voulez, c'est
non,
vous
non.
le chef.
Vous êtes sous surveillance. C'est d'accord. pas moi le chef, c'est vos archanges qui vous ont dit ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête de Lethier. Alors, il a là l'homme qu'il a initié au projet révolutionnaire, dont il a compris l'intelligence, dont il a compris l'importance. En principe, officier de l'armée française, il a en face de lui le vrai chef du FLN, c'est son devoir de patriote de livrer. En même temps, il a peut-être des raisons d'hésiter, parce qu'il n'y croit plus, lui déjà,
non.
à la guerre d'Algérie.
Il n'y croit plus.
Et son image de la France, comme dirait votre ami Xavier Gral, est passablement ébréchée.
Oui, et alors le problème crucial, c'est que il finit ses premières parties de ses études brillamment à Toulouse. Il a sa licence de droit au moment où tous ces événements se passent, où il apprend que dans son village et dans sa ville et tout, il y a des gens égorgés. Et il interrompt ses études pour s'engager. Il devient sous-lieutenant parce qu'il ne sort pas de ce dilemme. Il sent que ça va basculer. Et c'est le syndrome d'Aban, c'est Aban qui l'a retourné. D'un autre côté, il ne peut pas renier. Lui, il n'a pas la force. Toute sa famille, sa vie, l'Algérie française qu'il a connue. Donc. Et il décide de s'engager pour faire son devoir. Mais alors, faire son devoir dans son esprit, qu'était-ce? Est-ce que c'était pour expier? C'est bien possible, parce que à peine à la tête d'une section, dans des lieux extrêmement difficiles, qui sont le sud rouennais, il s'expose de manière inconsidérée lors de combats. et ce qui devait arriver arrivera. Il a été à deux reprises très grièvement blessé. La première fois, bon, on l'a tiré de là de justesse, et la deuxième fois, on n'a pas pu l'en tirer. En fait, il a
dans l'héroïsme de la
du désespoir, l'agonie du désespoir. L'héroïsme du désespoir.
Alors souvent, dans les dernières pages du livre, vous explorez toutes les facettes de cette question, de même que vous l'aviez fait dans le précédent livre sur la guerre d'Algérie, le Fakir. Et vous dites, bon, ben, moi j'ai le droit de me poser toutes ces questions. Alors là, on va retrouver le René et Victor Pille, imprécateur traditionnel. Par contre, quand je vois sur les plateaux de télévision, aujourd'hui, dans les années 2000, des quidam et des quidames qui se trémoussent en faisant la morale, alors là, ça me rend de nouveau colère.
Oui, parce que à 23 ans, quand je suis revenu d'Algérie et que j'ai dit autour de moi, premièrement, que je ne croyais plus à un dénouement français en Algérie, et qu'un jour ou l'autre, il faudrait que malheureusement les pieds noirs s'en aillent, quelles que soient les victoires de Charles ou de l'armée. Et ensuite, parce que j'avais commandé honorablement ma section, mais elle n'avait jamais torturé. Et à l'époque, n'est-ce pas, personne n'élevait la voix contre ce qui se passait là-bas. Et alors, on se faisait casser la figure pour rien, n'est-ce pas? Par les Le Pen et autres dans les arrondissements de Paris. Et personne ne disait rien. Et 30 ans plus tard...
Vous voulez dire que quand vous rentrez, que vous fondez une association d'anciens, qui est à l'origine lointaine de la puissante Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie aujourd'hui...
Que j'ai été vice-président.
Que vous posiez la question dans le 15e arrondissement, c'était Piaggi, Le Pen et les frères Sidos qui vous répondaient en
Absolument.
Vous cassant la gueule, encore que vous deviez vous défendre.
Me défendais ardemment.
Mais que les Kidam et les Kidames de l'époque, ils ne vous soutenaient pas.
Non, pas du tout. Et puis, j'en ai bien vu d'anciens... d'Algérie que je connaissais, qui n'osait pas intervenir. Et puis, plus tard, qu'est-ce que je vois à la télé, un tel ou un tel publier un livre sur les tortures terribles qu'il avait vues ici ou là. Bon, ce qui m'a posé deux problèmes. D'abord, un problème pour eux, parce que, justement, je me disais, ben dis donc, hein, eux, ils viennent au secours de la victoire, en quelque sorte. Hein, c'est vraiment... ils ont du culot de venir se mettre sur des plateaux de télévision alors qu'ils n'ont rien dit quand il fallait parler. Et deuxièmement, plus grave encore, ils donnaient une image de l'armée d'Algérie et notamment du contingent, parce que ces gens-là n'étaient pas volontaires, le contingent, c'était des gens réquisitionnés, n'est-ce pas, en quelque sorte, des appelés, on nous avait mobilisés, on ne demandait pas à aller en Algérie, ils en donnaient une image horrible, alors que pendant 2 ans d'opération ininterrompue, je n'ai jamais vu autour de moi, dans les unités normales de l'armée française, qui n'étaient pas spéciales, je n'ai jamais vu des gens torturer qui que ce soit.
Malheureux anciens d'Algérie, venus des monts d'Arrée, des montagnes d'Ariège, ça c'est votre cas, et des corons du Nord, de quel fardeau avez-vous été batté, dites-vous, René Victor Pille.
Et puis on n'avait pas la télévision aux Invalides quand on mourait.
Et vous dites que les mêmes, aujourd'hui, les Kidam et les Kidames de la télévision se coucheraient de rechef devant le mal en marche. Merci à vous, René Victor.
Je vous remercie moi-même. Monsieur.
La nuit de Zélanta, c'est aux éditions Albin Michel. L'émission était préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Elinka Negulesco, Clara Garzon, à la technique Benjamin de la Gâtinais, à la réalisation Jacques Sigal.